Je vais lire quelques textes. D'abord dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1, et au verset 5, au milieu du verset, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ces passages nous apprennent quelque chose d'important, c'est que par le Christ, maintenant, nous avons un statut différent de ce que nous avions avant. Et dans notre statut, il est dit que nous sommes un royaume. Nous sommes rois et reines. Voilà ce que nous sommes, des rois et des reines. Et donc, parce que je m'adresse à des rois et des reines, je vais vous parler d'un roi ce matin, en fait de deux rois de l'histoire de France. L'été dernier, je suis allé vers la Tour Eiffel à Paris et j'ai pris un métro. Je suis allé vers mon lieu de naissance. Et dans ce métro, il y avait des gens du monde entier. Des Américains, des Japonais, des Allemands. Et c'était bondé. C'est pas parce qu'ils allaient à mon lieu de naissance qu'il y avait tous ces étrangers, mais c'est parce que je suis né à Versailles. Et donc, ils étaient là pour visiter Versailles. Et tous les jours, les métros sont pleins, les trains sont pleins pour visiter Versailles. C'est peut-être l'endroit le plus connu en France, avec la Tour Eiffel, Versailles, à l'étranger, en tout cas. En Amérique, je l'ai constaté. Versailles, c'est vraiment le premier endroit où on va. C'est Louis XIV, il est devenu roi, il avait 14 ans. C'était encore un enfant. Et il se souvenait que son père, Louis XIII, avait un petit hameau de chasse dans la forêt de Versailles, où il allait quand il était petit. Il a toujours rêvé de vivre à Versailles. Et dès qu'il est devenu roi, il a eu la pensée de faire un grand palais à Versailles. Eh bien, toute sa vie, il a passé à faire son palais. Non seulement tout son temps et toute son énergie, mais tout son argent et tout l'argent de la France est passé pratiquement dans ce palais. Il a fallu 50 ans, pratiquement, pour le compléter. Et ce n'était pas seulement un palais. C'était un arboricum avec des arbres du monde entier, le plus grand arboricum d'Europe. C'était aussi un zoo. Il y avait des navires à Versailles, sur les canaux. On a estimé qu'il a fallu 150 millions de dollars pour construire ce palais, pour le perfectionner. Et sans compter tout l'argent que ça a coûté pour entretenir les fastes de Versailles. Chaque jour, il y avait des fêtes à Versailles. Versailles est devenu le centre culturel, artistique et politique de l'Europe. Un symbole qui est resté pendant des siècles, un symbole de pouvoir, de royauté. Et c'est pour ça, parce que je m'adresse à des rois et des reines, qu'on essaye de comprendre quelque chose. Parce que nous, en tant que rois et reines, qu'est-ce qu'on va laisser sur cette terre? Quel genre de château? Un château de pierre? Ou un autre genre de château? Alors vous savez très bien, comme moi, que notre rôle n'est pas de laisser des châteaux de pierre sur cette terre, mais de laisser des châteaux plus importants, qui ont à voir avec le cœur, avec les choses spirituelles. Jésus nous l'enseigne, hein, très clairement dans Matthieu, chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Bon, Louis XIV, il a laissé un palais, un grand palais, encore connu aujourd'hui, visité par les gens du monde entier. Voilà l'héritage de Louis XIV. Mais il y a un autre héritage de Louis XIV dont on ne parle pas beaucoup. C'est que le même roi qui a construit ce palais a aussi fait autre chose. Il a ordonné la persécution de ceux qui voulaient fonder leur religion sur la Bible. Et il a interdit donc la liberté de culte. Donc des milliers d'hommes et de femmes ont été exécutés, envoyés aux galères ou expulsés de France. On a ordonné la destruction immédiate de tous les édifices religieux non catholiques. Alors aujourd'hui en France, il y a la liberté de lire la Bible, de la suivre. Mais à cette époque, la France a perdu des milliers et des milliers d'hommes honnêtes et pieux. Et ces hommes et ces femmes qui sont partis ou qui sont morts n'ont pas pu léguer à la France leur trésor spirituel. Et ça a été une grande perte pour la France, une perte inestimable. Donc Louis XIV a aboli l'édit de Nantes. Cet édit qui donnait la liberté de culte aux lecteurs de la Bible. Mais cet édit, l'édit de Nantes, il continue à avoir son effet aujourd'hui. Parce que les idées dans cet édit de Nantes, les idées de liberté de conscience pour les peuples, bien ces idées ont été reprises par la suite. Ces idées d'Henri IV et de son ministre Sully. Le roi Henri IV, qui était un lecteur de la Bible, qui a connu la parole de Dieu, il a vécu différemment. Henri IV, il a dépensé beaucoup d'argent pour que chaque Français puisse manger correctement. Il n'a pas dilapidé la fortune de France, comme Louis XIV. Et je pense que le legs d'Henri IV était beaucoup plus grand, beaucoup plus valable pour la France que le legs laissé par la France à Louis XIV. Les principes de liberté sont plus importants qu'un palais, beaucoup plus importants. Jésus dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là est ton cœur. Et moi je pense qu'en tant que roi et reine, nous avons quelque chose à léguer à ceux qui viennent par la suite. C'est pour ça que Dieu a fait de nous des rois et des reines, pour qu'on puisse léguer quelque chose à ceux qui vont venir. Et je pense que chaque jour, nous avons la possibilité, chaque jour de notre vie, de léguer quelque chose à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui viendront. Et quelque chose qui est plus important, bien sûr, qu'un palais de pierre. Et il y a trois choses à dire concernant ça. Trois choses. D'abord, pour pouvoir faire ce legs à ceux qui viendront après nous, il faut être persuadé de la valeur intrinsèque, absolue, des bienfaits spirituels, de l'espérance, de l'amour, d'une vie au service de Dieu. Il faut en être persuadé. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous la lisons, nous nous rendons compte que celle-ci nous dit, cette parole nous dit constamment, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que l'obéissance à Dieu, l'amour du prochain, l'œuvre pour le royaume de Dieu sont des trésors inestimables. Par contre, si nous écoutons la société qui nous entoure, si nous écoutons les médias, eh bien, ils nous disent que les choses les plus précieuses sont d'ordre matériel. Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Nous avons à faire un choix. Nous avons à prendre une décision. Et c'est une décision qu'il faut prendre tous les jours. On ne peut pas la prendre une seule fois et puis elle est prise. Nous devons la reprendre chaque jour et presque chaque instant dans cette société dans laquelle nous vivons. Et moi, je dirais qu'il y a une dimension existentielle à ce choix. Existentiel, ça veut dire que c'est l'expérience qui va nous montrer vraiment la valeur supérieure des choses spirituelles, de l'espoir, de l'amour aux choses matérielles. C'est l'expérience. C'est pas une décision qu'on prend une fois, mais c'est une décision qu'on reprend et qu'on reprend. Et quand on fait l'expérience par notre vie de la valeur dans la vie des autres, dans notre propre vie, de l'évangile, du salut, de l'espérance, eh bien, la conviction est beaucoup plus grande. C'est l'expérience dont nous avons besoin. Donc ce n'est pas seulement en choisissant une fois, en décidant une fois, nous allons venir au Christ, nous allons être baptisés, mais c'est en vivant cela chaque jour que notre conviction se fait. Donc c'est la première chose. Est-ce que nous sommes convaincus vraiment? Et ça, cette décision, il faut la prendre chaque jour. Deuxièmement, pour saisir les occasions de léguer ces biens spirituels aux autres, il faut aussi être convaincu et persuadé de ce que Jésus dit. C'est-à-dire que les choses matérielles, finalement, n'ont pas d'importance, n'ont pas de valeur en soi. Jésus dit, c'est le néant, ces choses-là. Elles peuvent être détruites, elles peuvent rouiller, elles peuvent être livrées à disparaître. Et même notre vie physique, la vie physique de notre corps, au fond, n'est pas non plus l'essentiel. Nous savons bien ce qu'est l'essentiel. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. La pauvreté ou la richesse en soi n'ont pas vraiment d'importance. C'est pour cela que Paul dit en Philippiens 4, versets 11 et 12, « J'ai appris à me contenter dans le besoin, dans l'abondance. » C'est intéressant qu'ils disent que dans l'abondance, il a appris à se contenter. C'est curieux. Pourquoi ne se contenterait-on pas dans l'abondance? Parce que quand on est dans l'abondance, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez. Et ceux qui réclament d'avoir plus sont toujours ceux qui ont plus. C'est pas ceux qui n'ont rien. C'est ceux qui ont beaucoup qui veulent toujours plus. En général, dans ce monde. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc nous devons être contents de l'état où nous sommes. De toute façon, nous sommes dans l'abondance. Par Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Et la troisième chose à dire, pour pouvoir léguer les biens spirituels à ceux qui nous entourent et ceux qui vont venir, il faut se souvenir que les biens spirituels sont transmis comment? Comment les biens spirituels sont-ils transmis? Eh bien, les biens spirituels sont transmis principalement par la parole. Par la parole. C'est par nos mots que nous transmettons l'espoir, l'amour, la foi. C'est par nos paroles. Les paroles qui ont été prononcées par Jésus il y a 2000 ans, ces paroles continuent aujourd'hui à léguer des bienfaits. Encore. Et même les paroles des prophètes, ils sont morts depuis longtemps. Mais leurs paroles continuent à léguer des bienfaits spirituels encore aujourd'hui. C'est vrai pour ce qui est bien, c'est vrai pour ce qui est mal. Les paroles d'Adolf Hitler, aujourd'hui, peuvent continuer à faire le mal. Si les gens les écoutent et suivent ces paroles, on peut avoir les mêmes résultats. Parce que les paroles restent. C'est intéressant que les paroles restent. Les paroles restent davantage que tout le reste qu'on va faire. Notre travail, nos biens matériels, tout ça, ça va partir un jour. Mais nos paroles, elles restent. Parce que les paroles que vous dites à votre prochain, à votre enfant, vont produire quelque chose. C'est pour ça que Jésus dit de faire très attention à ce qu'on dit. C'est par la parole qu'on va apporter le salut, c'est aussi par la parole qu'on peut apporter la perdition. Qu'on peut encourager ou qu'on peut décourager. Chacune de nos paroles, donc, est un legs, un héritage que nous laissons. On ne peut jamais effacer les effets d'une parole blessante. Jamais. Vous ne pouvez pas l'effacer. Dieu vous pardonnera. Mais les effets de cette parole blessante vont rester. Vous ne pourrez jamais les effacer. C'est comme une semence que vous avez mise en terre. Et elle produira un jour sa récolte. Mais bien sûr aussi les paroles de bonté que vous laissez aux autres. Les paroles de justice, d'amour que vous laissez aux autres. Jamais elles pourront disparaître. Elles resteront dans le cœur et elles produiront aussi un effet. Vous savez, on se souvient souvent de quelque chose que quelqu'un a dit. Mais cette personne dira, oh, j'ai dit ça moi. J'ai complètement oublié que j'ai dit ça. Vous voyez, il a oublié qu'il a dit ça. Mais vous n'avez pas oublié. Parce que sa parole est restée. Vous l'avez entendue, elle est restée dans votre cœur. Alors nous sommes les rois et les reines. Nous avons un bienfait, des bienfaits spirituels à léguer à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui viendront après nous. Nous n'avons qu'aujourd'hui pour faire cela. Personne d'entre nous ne sait combien de temps encore il reste. Combien de temps. Vous savez pourquoi nous attachons une si grande importance, trop d'importance aux choses matérielles? Je pense que c'est parce que nous ne sommes pas convaincus de notre mortalité. Imaginons que nous sachions qu'il nous reste cette journée à vivre. Est-ce que nous allons penser à la bourse ou à ceci ou à cela ou à notre argent? Non, nous n'allons pas y penser du tout. Pas du tout. Nous allons penser à nos amis, à nos enfants, à nos parents. Qu'est-ce que nous pouvons leur dire, finalement? Qu'est-ce que nous pouvons leur dire aujourd'hui qui vont pouvoir garder et qui vont pouvoir les aider quand on ne sera plus là? Vous savez, ce qu'on se souvient le plus d'une personne qu'on a perdue. Qu'est-ce qu'on se souvient le plus? Ce n'est pas les habits qu'elle avait. Ce n'est pas les habits qu'elle avait, on s'en souvient. Ce n'est pas les choses qu'on a fait ensemble. C'est les choses qu'on s'est dites. Et ce qui manque le plus, c'est les paroles. C'est la communication. Parce que c'est la chose la plus importante. Dans un couple, dans une famille, dans une église. Ce qui est le plus important dans une église, c'est ce qu'on se dit l'un à l'autre, ou ce qu'on ne se dit pas, parfois, qu'on devrait se dire. Donc pour la vie de l'église, c'est la même chose. L'église doit s'attacher aux choses spirituelles, que ce soit dans les réunions, que ce soit dans les cultes, que ce soit dans les projets. Il faut toujours que la spiritualité prime sur le reste. Parce que Jésus dit, cherchez d'abord mon royaume et la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Et tout vous sera donné par-dessus. Est-ce que ça s'applique uniquement à l'individu? Ça s'applique à une famille? Ça s'applique à la communauté? Ça s'applique à l'Église? Si nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, en tant qu'Église, nous avons besoin de quelque chose. Peut-être. Dieu nous le donnera. Par-dessus. On n'a pas besoin de s'en inquiéter pour cela. Il nous le donnera. Mais nous, nous devons chercher son royaume et sa justice. Nous, en tant qu'Église, notre devoir, c'est d'être dans la prière. C'est pour ça qu'on est là. C'est d'être dans la louange. C'est de transmettre sa parole. C'est ça notre travail en tant qu'Église. C'est ça notre rôle. C'est ça que nous avons à léguer à ceux qui sont autour de nous. Mais on peut facilement l'oublier dans cette société, parce que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne le monde et la société autour de nous. Ce n'est pas la priorité du monde, mais c'est notre priorité. Nous avons un grand héritage à laisser autour de nous. J'espère que on pourra persévérer en tant que roi et reine et qu'on pourra laisser quelque chose qui sera plus grand, de plus de valeur que même le palais de Versailles. Je pense que chacun de nous a ce pouvoir, chacun de nous, de laisser quelque chose de grande valeur derrière nous. Nous devons en être persuadés, nous devons être persuadés que tout ce qui souvent nous attache finalement n'est pas si important, et nous devons être persuadés que nos paroles ont une valeur inestimable, immense. Et faire très attention comment nous parlons. Jacques nous le dit, soyez attentifs, faites attention à ne pas parler rapidement, mais soyez prompts à écouter, prompts à écouter. Nous écouter les uns les autres et nous dire des choses qui vont nous aider les uns les autres. Ça, c'est précieux. Ça, c'est un héritage spirituel. Que Dieu nous y aide. Et je pense que nous allons prier. Vous allez dire, nous allons chanter. Nous allons prier à présent. Que Dieu nous bénisse. Amen.